Vous écoutez RTL.
Écoutez, vous êtes sur RTL. RTL, première radio de France.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la curiosité sur RTL. Ici, on aime apprendre, on aime se cultiver dans la bonne humeur. C'est donc parti pour une heure de découverte avec Sidonie. Bonjour Sidonie, ça va?
Bonjour Thomas, ça va très bien, salut les curieux tout à l'heure. Vers 14h30, on vous emmène faire les soldes. On s'apprête à en profiter pendant 6 semaines. Mais qui les a inventés? Quelles ont été les toutes premières bonnes affaires? L'occasion aussi de vous raconter la naissance des grands magasins.
Et tout de suite sur RTL, un grand sculpteur au nom d'empereur César.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Je travaillais dans une banlieue à Paris, où il y avait beaucoup de ferrailleurs. J'ai commencé à utiliser le déchet pour des questions purement de nécessité. Là, j'ai trouvé ma vie.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je me suis exalté dans ce matériau, dans cette technique et tout ça.
Si votre défaut, c'est la curiosité.
C'est une technique comme une autre, mais le fait de pouvoir utiliser la presse, c'était une période de ma vie dans laquelle je suis rentré dedans parce que je vivais dans la ferraille.
Alors vous êtes bien sur RTL.
Bonjour Bernard Blisten.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Bienvenue sur RTL. Vous êtes directeur du musée d'art moderne, commissaire de l'exposition consacrée à César au centre Pompidou. On vient d'entendre la voix du sculpteur. On commence par son œuvre la plus connue du grand public, grâce au cinéma. Évidemment, cette compression qui récompense les stars chaque année, il l'a créée au milieu des années 70, mais ce n'était pas sa première idée. Est-ce que vous pouvez nous décrire les premières statuettes, les premières récompenses remises aux stars du cinéma français et créées par César?
En fait, oui, à l'origine, il y a l'idée d'une figurine, puis qui se transforme, et l'idée de la compression qui amasse différents éléments qui renvoient à l'esthétique du cinéma et à l'histoire du cinéma. Mais César, il travaillait comme ça de manière très pragmatique. Il avançait en manipulant des objets, en récupérant des choses. Et là, je crois que c'était quelque chose qui allait de soi que de faire une compression.
Mais au départ, il fait une figurine qui plaît pas trop au récipiendaire, c'est ça?
Oui, je crois. Vous savez, on raconte tout. Tout et son contraire. Je ne crois pas vraiment que...
On n'en a pas la trace
Si, on a des étapes, on a des éléments intermédiaires, mais très très vite, l'idée de la compression, qui était totalement emblématique dans son œuvre, est apparue.
Il y a quoi dans ce César?
Ben, il y a des éléments du cinéma, il y a des choses qui renvoient à l'esthétique du cinéma. Ça va de la pellicule à des bouts de matériaux qui composent l'imaginaire du cinéma. Et il y a un objet très dense, en fait. Il cherchait toujours à densifier les choses. Il disait que le poids était véritablement essentiel dans son œuvre. Et puis, de fait, il y a beaucoup de choses qui rappellent aussi des bobineaux et tout ce qui faisait le cinéma d'alors, c'était avant le numérique.
César est mort il y a 20 ans, le 6 décembre 1998. Est-ce qu'il a été célébré de son vivant ou au contraire un peu snobé par le milieu de l'art?
C'est ambigu, le milieu de l'art est snob par essence, donc il snob tous ceux qui s'y aventurent.
Tous les nouveaux, c'est ça?
Pas que tous les nouveaux, le monde de l'art est un monde de passion, et donc un monde de tension entre les gens et les artistes.
Alors un peu snobé au début, César,
Pas tant que ça. César, il est assez célèbre très tôt. Ouais. Hein. Il arrive à Paris dans l'après-guerre. En 1947, il expose son œuvre. Dans les années 50, il fait ses fers souder. Et très très vite, il trouve évidemment un certain écho. Mais ce sont effectivement les compressions en 1960 qui vont produire une rupture.
César, c'est un méridional, on l'a entendu dans la mise en onde de Sébastien Duduy. Il a un accent formidable. Il est né à Marseille en 1921. Il naît dans quel milieu social?
Il est dans un milieu très pauvre, il l'a souvent raconté. Son père est tonnelier, ses parents sont d'origine toscane. Mais sa mère, toujours les mamans, hein, sa mère est attentive à son fils et l'envoie par le truchement d'un ami à l'école des Beaux-Arts, où il va errer plus que de faire des études, puis il va vouloir monter à Paris, comme on dit. C'est la guerre, il ne peut pas y rester, il redescend à Marseille, il ne reviendra à Paris que dans l'après-guerre. C'est pour ça qu'il a une formation classique, c'est pour ça que, pour lui, si vous voulez, les grands sculpteurs sont de fait Michelangelo, comme disait sa maman, et aussi Rodin, et donc toute une histoire de la statuaire. Et c'est pour ça que cette idée ne le quitte pas, et que même s'il est poussé à inventer des choses qui sont liées au monde moderne, bah, il revient, et le public d'ailleurs ne le comprend pas nécessairement, à cette idée qu'un sculpteur est avant tout dans la grande tradition qui vient, bien évidemment, des grands maîtres du passé.
Alors, comment César a-t-il eu cette idée géniale de compresser les objets de notre quotidien ? C'est ce que l'on va découvrir ensemble dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel sur RTL.
Là où il y a de la lumière, il y a toujours de l'ombre. Elton John, Gérard Depardieu, les Sœurs de Neuve, mais aussi Amy Winehouse ou La Calasse, La Gloire et ses fêlures, chaque samedi, en toute confidence, je vous raconte ces extraordinaires trajectoires où le succès cache souvent des pièges, des doutes ou des secrets d'enfance, les célébrités et l'envers du décor, c'est ensemble et c'est confidentiel sur RTL.
Confidentiel, présenté par Jean-Alphonse Richard, tous les samedis à 14h sur RTL.
Pour satisfaire votre curiosité.
Vous savez, moi, je suis un instinctif. J'ai les doutes, mais il y a des moments où j'ai une certitude.
Sidonie Bonnec.
Et quand j'ai une certitude, je suis comme les cons.
Thomas Hugues.
Je fonce.
Curieuse ? Curieux ?
C'est quand je suis au bout que je me suis aperçu que je me suis trompé. Mais souvent, quand je me trompe, c'est mieux que quand je me trompe pas.
Vous êtes chez vous, sur RTL.
C'est l'un des plus grands sculpteurs français. On découvre l'histoire de César dans la curiosité avec Bernard Blisten, commissaire de l'exposition César, qui se tient jusqu'au 26 mars au Centre Pompidou à Paris. Il dit qu'il est comme un con, il fonce quand il a une certitude et que c'est mieux quand il se trompe. Il avait de l'humour, ça c'est sûr, et l'humilité aussi, César.
T'es un inquiet. T'es quelqu'un qui donnait le sentiment d'être débonnaire, mais qui était profondément tiraillé. C'était quelqu'un qui, à la fois, savait qu'il était reconnu pour ses grands gestes qui font son histoire, la compression, l'expansion, etc. Et qui, en même temps, se disait qu'à l'échelle du temps, ce serait plutôt du côté de la statuaire et de l'art classique qu'il resterait. Et donc, il connaissait des phases comme ça d'incertitude. Puis c'était un diseur absolument extraordinaire. C'est quelqu'un qui savait absolument maîtriser les choses. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un d'humble. C'est quelqu'un qui a tout à fait conscience et très tôt qu'il a apporté quelque chose de très, très important à l'histoire de la sculpture.
Le grand public le connaît pour ses fameuses compressions. Est-ce que c'est vrai qu'il a trouvé cette idée, César, chez un ferrailleur ?
Oui, il est chez un ferrailleur à ramasser des bouts de fer pour essayer de faire ce qu'il appelait des fers soudés. Puis il entend le bruit d'une machine qui l'attire. Il va y voir de près. C'est une presse américaine, la seule qui à l'époque existait. Et il voit sortir de cette presse américaine ces ballots de métal qu'on trouve chez les ferrailleurs, dans les casses automobiles. Et il va reconnaître cette forme et en faire son langage propre. Il s'est approprié, si vous voulez, quelque chose que la machine, en l'occurrence, produisait à sa place. Et c'est peut-être d'ailleurs le tout premier artiste, si vous cherchez dans l'histoire de la sculpture, qui procède de la sorte, qui s'approprie finalement un objet qui lui-même est réalisé à partir d'une presse industrielle.
César qui va pratiquer ce qu'il appelle la compression dirigée. Alors c'est quoi ? Vous pouvez nous expliquer ?
Bah, la compression, de fait, c'est celle qui sort lorsque la voiture est réduite à minima. Et la compression dirigée, c'est lorsqu'il interrompt le processus et qu'il rajoute quelque chose pour donner une couleur, pour inculquer autre chose à l'objet. Et il y a toute une histoire de la compression, vous pouvez suivre. César a ouvert des chantiers, mais il les a continuer sa vie durant.
C'est-à-dire que la compression, il l'a pratiquée jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 98.
Comme tous les chantiers qu'il a ouverts, les premiers étaient les fers soudés, et jusqu'à sa mort, il fait des fers soudés. C'est quelqu'un qui ouvre des voies et qui, à l'intérieur de ces voies, cherche à les faire évoluer, à les transformer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai voulu que l'exposition soit un espace ouvert, pour pas qu'on passe, si vous voulez, d'un premier cycle à un autre, mais pour qu'on comprenne que l'homme pouvait simultanément faire des choses différentes.
César, qui ne manquait pas d'humour, en 1961, il reçoit un cadeau, c'est une voiture de la vicomtesse de Noailles. Qu'est-ce qu'il fait avec ?
La vicomtesse de Noailles était, comme vous le savez sans doute, l'une des grandes familles, des plus grandes collections qui soient. On y trouvait des œuvres anciennes admirable et elle était très proche des artistes de son temps. Elle a d'ailleurs enregistré un film absolument passionnant où elle parle de César avec une intelligence extraordinaire.
Donc elle a envie de lui faire un cadeau, c'est ça? Elle lui offre une voiture?
Oh, je ne sais pas si elle a tant envie de lui faire un cadeau ou si c'est lui qui voit une Zim, la voiture des potentats du Soviet, chez elle et qui lui propose de la compresser. Toujours est-il qu'il va compresser la seule et unique Zim qui se trouvait sur le territoire français, de la même manière qu'il a compressé une Rolls, et qu'une fois qu'elle est sortie de la presse, il a dit « elle ne me plaît pas, je ne la signe pas ».
Et puis impossible de la déplier, j'imagine.
Non, ça marche que dans
un sens. Il pourrait essayer de se rattraper, bon.
Sa dernière création, c'est la suite milanaise. C'est quoi la suite milanaise ?
Il est à Milan, oui. En Italie. Il a cherché, avec difficulté d'ailleurs, à ce qu'on lui donne des voitures neuves. Parce que César avait de l'humour, mais César était aussi pervers. Et il aimait l'idée, si vous voulez, de pouvoir se faire confier, non pas des voitures qui avaient vécu leur vie dans des rallyes ou qui se retrouvaient à la casse. Et donc, il cherche chez des constructeurs, je tairai les noms par respect, et c'est en Italie une fameuse marque turinoise.
Oui, on peut citer, c'est Fiat.
Fiat, qui accepte de lui confier des voitures neuves. Et donc, il va compresser de manière plus lâche ses voitures, puis ensuite les relaquer en utilisant toutes les couleurs de la gamme. Et le choix même des couleurs n'est donc pas tant déterminé par lui que par la gamme des voitures qui
Parmi
existent.
Les œuvres de César, il y a les empreintes. Par exemple, celle d'un saint. Il voulait mouler celui de Jane Fonda ou de Brigitte Bardot, qui fut l'heureuse élue. Réponse dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Alors, cher César, voilà un de plus. Le tien.
Je vais être rapide. Je suis très heureux d'offrir au cinéma français ces récompenses qui portent mon nom. Mais le César qu'on m'offre, je voudrais l'offrir à quelqu'un qui sûrement n'est pas là, mais sa femme est sûrement là, qui s'appelle Maurice Casanova, qui tient le Fouquet's. Qui a beaucoup fait pour l'Académie des cinémas.
Pour Maurice Casanova, alors.
César qui reçoit son César d'honneur, on est en 1992, il le reçoit des mains de François Mitterrand. Bernard Blisten, avec vous, on découvre l'histoire et l'œuvre de ce sculpteur de génie à l'occasion d'une exposition qui lui est consacrée, une rétrospective, c'est jusqu'au 26 mars au Centre Pompidou à Paris. Il avait le sens de l'amitié,
il avait
César
absolument.
Parce que là, on voit, il remercie, il dit ce César n'est pas pour moi, et il remercie le
Il avait le sens de l'amitié, il avait le sens de la fratrie, il était méridional. On l'a dit, il avait véritablement autour de lui, oui, la bande d'amis qui était toujours là, évidemment. Puis vous savez, il avait participé à ce mouvement qu'on appelait le Nouveau Réalisme dans les années 60, avec d'autres artistes comme Armand, comme Christau, comme Villeglay, etc. Et ces gens-là avaient fait front, en quelque sorte. Ils avaient fait front par rapport à l'art américain qui devenait dominant. C'était la toute prégnance du pop art. Ils étaient défendus par un très célèbre critique, Pierre Restel. Et donc, il y a vraiment eu cause commune à un moment donné.
On ne soupçonne pas ça. Ça peut être une guerre, le monde de l'art, avec beaucoup d'argent, beaucoup de forcément de notoriété en jeu.
Guerre et bataille, oui, bien évidemment. Et je crois que c'est d'ailleurs tout à fait positif. Je crois que c'est dans cette émulation-là que les artistes font des choses. César a, par exemple, à un moment donné de son œuvre, raté son entrée aux États-Unis. Il travaillait avec un marchand. Qui préférait ses sculptures figuratives. Et lorsqu'on lui a donné la possibilité de faire une première exposition à New York, il y en a eu d'autres évidemment, ce marchand a préféré envoyer ses œuvres-là, alors qu'il aurait dû aller aux États-Unis avec ses compressions, qui avaient été un geste absolument radical.
Et ses œuvres figuratives n'ont pas plu aux États-Unis ?
L'Amérique est toujours dans cette fuite en avant, si vous voulez, dans ce nouveau à tout prix. Mmh. Et César avait réalisé en 1960 un geste absolument radical. Il l'aurait présenté à ce moment-là aux États-Unis, qu'évidemment, il aurait été immédiatement célébré. Pour autant, ses œuvres sont rentrées tout de suite au MoMA, au Musée d'Art Moderne de New York. Mais il est clair que, si vous voulez, ce rapport Europe-Amérique est un rapport au sein duquel César, de fait, se retrouve.
On ne l'a pas dit, c'est l'un des sculpteurs français les plus connus au monde.
C'est sans doute, oui, l'un des artistes les plus célèbres au monde. Je pense que c'est un des noms. Il savait le pouvoir de son nom. Oui. Il savait qu'il était
c'est
César.
C'est son vrai prénom.
Absolument, il savait qu'il était César l'autre, mais en l'occurrence il le savait mieux que quiconque, et c'est certainement l'une des raisons d'ailleurs aussi de sa notoriété. Sa notoriété est aussi qu'il a réalisé, il faut le dire, c'est ça qui est important, des œuvres d'une radicalité extrême, reconnaissables entre toutes. Ils sont pas nombreux les artistes qui font des œuvres que vous identifiez au premier coup d'œil, et qui plus est n'en font pas qu'une seule, car les gens connaissent les compressions, connaissent les expansions, ils connaissent les empreintes, le fameux sein que vous
avez. Alors, on va en parler, les empreintes et les moulages qui arrivent au début des années 60. Quelle technique César découvre avant de se lancer ?
Parce que c'est important César de raconter. César est un homme de technique et de matériaux. Mmh. Le fer soudé, on l'a dit au début, des petits bouts de fer qu'on soude à l'arc, puis la compression, cette machine qui le fascine. Pour les empreintes, il cherche à mouler son pouce parce qu'il veut participer à une exposition dans laquelle il y a de grands maîtres, Rodin, Picasso, Giacometti, etc. Et donc il a l'idée de présenter un moulage de son pouce, un moulage en polyuréthane. Et pour ce faire, il veut aussi faire un agrandissement. Et il découvre une machine dont il connaissait probablement l'existence quand il était dans son atelier de sculpteur, soit à Marseille, soit à l'École des Beaux-Arts, qui permet l'agrandissement même de ce pouce. Et c'est donc avec cette machine qu'il va pouvoir réaliser un premier pouce de plus grande dimension, puis ensuite en faire des variations, avec toujours l'idée de se rapprocher de la sculpture, donc en marbre, donc en bronze, donc dans des matériaux qui ne sont pas simplement les matériaux, disons, modernes, que sont les plastiques.
Après le pouce, le sein d'une femme, quelle actrice il choisit ? Brigitte Bardot ou Jane Fonda ? Il a le choix ?
Il aurait bien aimé avoir le choix, mais il s'est trouvé qu'il a trouvé, au demeurant, un fort joli sein au Crazy Horse. Et j'ai moi-même d'ailleurs tenté retrouver très très joli sein. J'ai moi-même tenté de retrouver la personne, je ne l'ai pas retrouvé. Je voulais tout simplement lui demander l'autorisation de publier la photo.
Bien sûr, du
et
modèle.
Finalement, nous avons fait un petit montage qui permet, soyez rassurés, de voir le sein, mais pas de voir le visage de la dame.
César, qui a souvent provoqué, on l'a dit, des polémiques, des scandales, mais il savait aussi s'amuser avec le public. On vous raconte comment sur RTL.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
César, la rétrospective, c'est l'exposition événement jusqu'au 26 mars au Centre Pompidou à Paris. On en profite pour découvrir la vie de ce sculpteur de génie avec Bernard Blisten. Les créations de César donnaient lieu parfois aussi à des happenings, des moments un peu fous.
Oui, tout à fait, essentiellement les expansions, il les réalisait en public. On peut même dire qu'il est le précurseur d'ailleurs de ce mode de...
Qu'est-ce qu'une expansion ?
Une expansion, c'est de la mousse de polyuréthane que vous activez avec du fréon et qui se répand et envahit l'espace. Rappelez-vous du film de Peter Sellers, La Partie, vous voyez, la mousse. Et donc, en l'occurrence, elle se solidifie. Et donc, César, au début, les réalise en public. Il va même d'ailleurs jusqu'à les déliter et en donner des morceaux qui signent aux gens qui sont là. On se souvient, par exemple, de l'anniversaire du Nouveau Réalisme en 1970. Mais, comme César est d'abord sculpteur, il veut leur donner une forme pérenne. Et donc, il va travailler le matériau, les poncer, les vernir, revenir dessus 2 ans avant que de trouver la possibilité d'en faire des formes stables et qui résistent au temps. Et c'est un moment absolument extraordinaire. Il en fait un peu partout, à la Tate Gallery à Londres, à la Biennale de San Paolo et dans l'exposition du Centre Pompidou, nous en avons rassemblé, qui montre les étapes même de cette extraordinaire production. Les toutes premières, elles sont simplement de pauvres objets qui s'échappent de casseroles ou de petites bouilloires, puis elles deviennent de formes monumentales.
Et c'est là, en quelque sorte, qu'il faisait participer, en tout cas jouer le public qui pouvait tailler ou participer à cette expansion. Un mot de cette ouverture qui a été annoncée il y a quelques minutes, 2019, du Centre Pompidou Shanghai. Belle nouvelle ?
Très belle nouvelle, j'en suis totalement heureux. Nous avions depuis quelque temps le désir de nous implanter là-bas. C'est fondamental. La Chine est un pays immense, une culture absolument extraordinaire. Ils nous ont choisis et donc nous nous installerons très vite dans un bâtiment construit par l'architecte anglais David Chipperfield. Comme nous nous installerons l'année prochaine aussi à Bruxelles, qui est la capitale l'Europe.
Et bien voilà une belle nouvelle.
Bonne chance à vous.
Ça faisait partie des annonces du président Emmanuel Macron ce matin en Chine. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.